Dans Éphésiens, chapitre 4, on poursuit notre étude ce matin sur la famille de Dieu. On va lire les premiers 16 versets, d'accord? Moi, je lis dans la version sommaire. Paul y dit, « Moi, qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable, patient, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Ouais. Je sais pas pourquoi il écrit ça pour nous, là, aujourd'hui. On n'a pas de misère avec ça. Hein? Efforcez-vous, qui dit, de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous, le Père de la famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. En tant qu'être humain, ce que Paul est en train de faire ici, là, c'est qu'il nous montre qu'est-ce qui nous unit. Nous, en tant qu'être humain, là, faibles et pauvres créatures que nous sommes, on regarde à ce qui... Il dit, « Ah, il ne croit pas comme moi, lui, là, par rapport à telle affaire. Ah, lui, il fait ça demain. Ah, lui, elle se permet ça. Moi, non, je ne permettrai pas, jamais ça. » Qu'est-ce qu'on fait? On divise, on sépare. Et là, Paul, il dit, « Attendez, arrêtez. Arrêtez de diviser le corps de Christ. Arrêtez de semer la division dans la famille de Dieu. Voici les bases de notre unité. » Un seul corps. Le corps de qui? Christ. Comment tu vas traiter le corps de Christ? Il y en a qui ne font pas attention à ça, là. Un seul esprit. Le lien qui nous unit, là, frères et sœurs, est beaucoup plus fort que le sang. Moi, j'ai un lien avec ma parenté, j'ai un lien avec mes enfants, je les aime, ils ont le même sang que moi. Mais toi et moi, là, on a le même esprit. Le même esprit. Le lien de sang, là, ça va arrêter à la mort. Le lien de l'esprit, là, ça continue pour l'éternité. Un seul esprit. Wow! Dans la paix qui vous lie les uns aux autres, la paix que Jésus a procurer à la croix la paix avec Dieu et la paix entre nous. Un seul corps, un seul esprit, et vous êtes appelés à une seule quoi? Espérance. On est tous dans le même autobus. On s'en va tous à la même place. On est tous en voyage vers le ciel, vers le royaume de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? On partage une même destinée. Il y a un seul Seigneur, pas 10, une seule foi, pas 45 différentes dénominations, une seule foi, un seul baptême, le baptême de la foi en Jésus-Christ. Un seul, quand il dit un seul, c'est un seul de nature. Pas un seul, ça veut dire qu'il y a juste une personne une fois qui s'est fait baptiser. Non, c'est une sorte de baptême. La sorte, c'est laquelle? C'est le baptême de la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on vient à la foi en Jésus-Christ, on se fait baptiser pour démontrer qu'on a cru en lui et qu'on veut vivre pour lui. Ça, c'est le baptême de Jésus-Christ. Amen. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous et qui est en tous. Paul nous met ici sous l'autorité du Dieu le Père, qui règne sur tous. Okay? Il règne sur toi, il règne sur moi. C'est pas moi qui règne sur toi, c'est pas toi qui règne sur moi. C'est Dieu qui règne sur tous. C'est des choses qui nous rappellent, et on a déjà vu ces choses-là. On poursuit. Verset 7, « Cependant, il vient nous parler de l'unité, mais cependant, chacun de vous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne. » Donc, unité, oui, mais diversité aussi. Hmm? Chacun a reçu une part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Et c'est lui, Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voici donc ce que je vous dis et ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. On va arrêter là pour ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, souverain roi de l'univers, Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y meut, des êtres spirituels, des êtres humains, des lois invisibles et immuables qui régissent la nature. Dieu Tout-Puissant, merci qu'on puisse s'arrêter ce matin pour te contempler, pour t'adorer, pour s'humilier, s'abaisser volontairement à ta présence, ô Dieu, et reconnaître que toi seul, tu es Dieu. Tu règnes dans les cieux et tu règnes sur la terre. Nous voulons ce matin, Seigneur, te louer, t'adorer, te révérer, te remercier parce que tu es notre soleil, notre lumière, notre vie et notre papa. Seigneur Dieu, donne-nous ton esprit de sagesse et de révélation ce matin pour qu'on puisse te connaître. Parce que personne ne peut te connaître à moins que tu ne te révèles à lui. Merci Seigneur Dieu de t'être révélé à nous à travers Jésus, le Fils bien-aimé. Révèle-nous encore, Père, cette espérance qui s'attache à ton appel que tu réserves pour nous. Garde nos yeux fixés sur cette espérance. Fortifie-nous aussi, Seigneur, par ton esprit. Et Seigneur, ce matin, je reconnais ma faiblesse devant toi, mon indignité. Saint-Esprit, souffle des quatre vents sur moi. Crée en moi un cœur nouveau et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Viens redonner vie à ces eaux mortes et desséchées. Oui, Saint-Esprit, viens nous révéler la pensée du Père ce matin pour nous. Et chasse toute obscurité dans nos cœurs. Pour la gloire de Jésus, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Merci. Amen. Chacun de nous, verset 7, nous dit Paul, a reçu une grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre, chacun. Les dons spirituels, c'est quelque chose que Christ donne. C'est quelque chose que Christ donne. C'est pas toi qui s'invente un don. C'est pas l'Église qui te confie un don. C'est qui donne les dons? C'est Christ. C'est Christ qui est le chef de son Église. C'est pourquoi il dit au verset 8, « Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Et on a déjà étudié ça rapidement. Ce qu'on a vu, c'est que ici c'est une référence à une guerre et un roi qui combat pour libérer son peuple, qui va à la guerre et qui gagne la bataille, qui remporte la victoire et qui libère les captifs de son peuple. Son peuple qui était prisonnier par l'ennemi, ils sont libérés. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus a fait. Et vous et moi, nous sommes de ces captifs-là que Christ a libérés. Amen. C'est réjouissant, hein? Et en libérant son peuple de la puissance de l'ennemi, il a fait des dons. Donc, c'est l'image d'un roi qui revient de la guerre et avec le butin. Mais ici, le butin, ce n'est pas l'or, l'argent, les bijoux. C'est des personnes qu'il a libérées. C'est ça, le butin. Et il donne, il distribue sur le butin qu'il a pris des dons à son peuple. Donc, on a l'image de ce roi vainqueur. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il a donné des dons. Mais en premier lieu, les dons, ce sont des personnes. Regardez au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, etc. Ici, on a vu que c'est des dons fondationnels. Au début de l'Église, Christ a donné des personnes particulièrement douées, particulièrement qui ont reçu une commission particulière, une mission particulière pour débuter l'Église, pour être le fondement. Ailleurs, on lit que l'Église est bâtie sur le fondement de Christ et des apôtres. OK? Le fondement, on ne peut pas le refaire. On ne peut pas reposer le fondement. Le fondement est posé. Christ et le fondement avec les apôtres. Donc, ici, on parle des dons fondationnels, mais ensuite, il continue, il parle des pasteurs, des docteurs. Et on sait que ça, ces dons-là continuent dans le temps. Bon, apôtres aussi, c'est une autre forme, si on veut, comme missionnaires pour établir des églises, être des fondateurs d'églises, mais ce ne sont pas des apôtres avec l'autorité du Christ. Hein? Ce ne sont pas des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, directement envoyés par Christ. Apostolat, ça veut dire quoi? Envoyé. Ça veut dire envoyé. Donc, il y a les apôtres de Jésus-Christ. Ils ont été envoyés directement par Jésus-Christ. Il y en a eu 12. Il n'y en aura pas d'autres. C'est terminé. OK? Ça, ce sont les apôtres de Jésus-Christ, envoyés. Quand vous entendez apôtres, pensez envoyés. Les envoyés de Jésus-Christ, ce sont les 12 que Jésus a directement envoyés. Après, il y a eu Paul, par contre. Paul, c'est une exception. Paul a été envoyé directement aussi par Jésus-Christ dans la vision qu'il a eue dans l'entretien direct avec Jésus-Christ. Mais il peut y avoir des apôtres dans le sens envoyés des églises. OK? Maurice veut être missionnaire en Afrique. OK, on dit, Maurice, parfait, on t'envoie. Bon, ça, c'est apôtre avec un petit P. OK? Petit A. OK? C'est missionnaire. Autrement dit, nous, on dit aujourd'hui missionnaire. Mais le mot dans la parole, c'est apostolos. OK? Ça peut exister encore. Donc, il peut aller dans un pays quelconque et fonder plein d'églises et il va avoir une certaine autorité parce qu'il a été envoyé pour accomplir une mission. Et il va établir des dirigeants dans les églises. Et ça, c'est une fonction qui existe encore aujourd'hui. Mais attention, il faut faire une distinction entre ce champ d'apôtres et les 12. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça que nous, on n'aime pas tant utiliser le mot d'apôtre parce que ça porte à confusion avec l'autorité apostolique de Paul, de Jean et des autres. Ça va? OK. Jusque-là. Verset 12. « Il a fait don de ces hommes pour qu'ils accomplissent tout le ministère dans l'Église. » Ah! Qu'est-ce que vous lisez? Vous êtes allumés? « Pour que ceux qui appartiennent à Dieu, » dans la version seconde, « pour le perfectionnement des saints, » saints, ça veut dire mis à part pour Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, Christ a fait don de ces hommes. Qui ces hommes-là? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants? Pour le perfectionnement des saints, ou, dans la version sommaire ici, pour que ceux qui appartiennent à Dieu, les saints, soient rendus aptes, soient rendus capables de quoi? D'accomplir leur service. En vue de quoi? Oui, l'édification du corps de Christ, la construction du corps de Christ, ça veut dire que c'est pas moi qui bâtis l'Église, c'est pas les anciens qui bâtissent l'Église, c'est vous. Oh! C'est toi, et 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 toi. Nous, on est là pour vous équiper. On est là pour donner l'exemple. On n'est pas là pour régner, en passant. C'est qui règne? On l'a dit tantôt. C'est Christ, c'est Dieu le Père qui règne sur tous. OK? Et Paul dit, Pierre, il dit dans 1 Pierre 5 au pasteur, il dit, je m'adresse, moi, en tant que berger, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, à vous, les dirigeants des églises, paissez le troupeau de Dieu. Hein? Ceux qui vous ont échu sous votre garde, mais non comme, quoi, dominant sur eux. On n'est pas là pour dominer sur personne. On est là pour équiper. On est là pour accompagner. On est là pour vous aider à, premièrement, découvrir votre don, ensuite, vous mettre au service du Seigneur Jésus dans l'Église. Et l'Église, elle a une mission. C'est quoi la mission de l'Église? Faire des disciples. Jésus a dit à ses disciples, allez dans tout le monde et faites des disciples. On n'est pas là pour nous. On est là pour la cause de Jésus-Christ. Et Jésus a une cause, une mission, c'est de faire des disciples. Mais des disciples, il y a plusieurs choses qui contribuent à la formation de disciples. Il y a plusieurs choses. Donc, quelqu'un qui enseigne à l'école du dimanche ce matin contribue à faire des disciples. Quelqu'un qui accueille à la porte contribue à démontrer l'accueil de Jésus-Christ. Et ça contribue, tout contribue à la mission de Jésus-Christ. L'Église n'existe pas pour le pasteur ou les pasteurs. L'Église n'existe pas pour ses membres non plus, en premier lieu. L'Église existe pour la mission de Christ. Donc, il faut jamais qu'on perde de vue cette mission-là. Frères et sœurs, la construction du corps du Christ, est-ce que ça vous intéresse? Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Donc, on était rendu là. Donc, tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est de la révision. Je sais que ça fait longtemps. En passant à notre verset thème, hein, vous vous rappelez? Hop! Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas changé de source. Désolé. OK. Désolé, j'ai pas le bon fil probablement. C'est lui.
C'est lui.
OK. Donc, Éphésiens 2, 19, notre verset thème. Ça va-tu arriver? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, non. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais vous le répéter, le verset M. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Désolé. Ça devrait fonctionner, là. Bon, OK, super. Merci beaucoup. OK? Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. C'est ici en bas. Ah, OK. Bon. OK. Bon, on va essayer de progresser quand même. Donc, Dieu est le père de sa famille. Dieu s'intéresse à nos relations. Et on a vu à date comment est-ce que dans l'accueil, la persévérance, l'édification, l'humilité, et là, on est rendu à l'unité et la collaboration. Donc, Dieu t'accorde à toi, son enfant, le privilège de contribuer à l'unité et à la croissance de sa famille à travers l'emploi de tes dons, en collaborant avec les autres, tout en évitant d'imposer tes objectifs personnels. Donc, on a vu tout ça. Et puis, Christ nous donne des dons pour contribuer à l'unité de la croissance de son corps. Et on a vu, les dons découlent de l'œuvre du Christ. Les dons, ce n'est pas séparé de la croix. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, mais moi, je n'avais pas, comme pas fait le lien direct entre la croix et les dons. La croix de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sa mort et sa résurrection, c'est ça qui permet qu'on ait des dons dans l'Église. Ça découle directement de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est précieux, ça veut dire que c'est précieux. Ça veut dire que ça a coûté le sang de Christ pour qu'il y ait des dons dans l'Église. Ton don, là, même si tu ne sais pas c'est quoi, ça a coûté le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas-tu chercher à développer, à connaître et à développer ce don-là pour contribuer à la croissance du corps de Christ? C'est-à-dire, peut-être que tu n'as jamais pris conscience, là, de, comme moi, que le don que tu as là, dans tes mains, là, ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Tu vas-tu aller juste l'enterrer, tu vas juste le mettre sur la tablette, oublier ça, puis c'est les dons, c'est pour les autres, ou c'est le pasteur, les pasteurs, les pasteurs. Non, le don que tu as, ça découle directement de la croix. C'est précieux. Peut-être tu dis, ben, je ne sais pas c'est quoi mon don. OK, mais tu n'as un. Tu n'as un, tu n'as peut-être plus qu'un. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de demander au Seigneur qui est mort pour toi, c'est quoi le don que tu m'as donné, Seigneur, qui t'a coûté si cher? Les dons découlent directement de l'œuvre de Christ à la croix. C'est ce qu'on voit ici. Hein? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est allé à la guerre pour nous. Hein? Puis il a libéré des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Donc, les dons découlent directement de l'œuvre du Christ. On a parlé des dons de fondation qui sont importants. Maintenant, la question, c'est, est-ce que tu veux participer à la construction, à l'unité du corps de Christ? Fait que là, c'est là qu'on est rendu, versets 12 à 15. Pardon, je continue. Veux-tu participer? Ainsi, Paul dit au verset 13, nous parviendrons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Nous parviendrons tous, ensemble, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc, il semble avoir deux éléments dans ce verset. Il y a comme deux buts qui sont visés dans la construction. Il dit, ces dons-là, c'est pour participer à la construction du corps de Christ. OK? Alors, c'est quoi les buts? Afin que nous parvenons, donc il parle de buts, là. Donc, tu fais ça dans le but de quelque chose. OK? Tu exerces ton don dans le but de quelque chose. Il y a deux buts ici. Le premier, c'est quoi? C'est l'unité de la foi, exactement. L'unité de la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, le mot foi ici, ça ne signifie pas l'acte de croire. OK? Mais plutôt ce dans quoi on croit. Donc, la foi, le mot foi peut signifier croire, faire confiance, hein? Comme tu viens à la foi en Jésus-Christ, tu as cru en Jésus-Christ, tu lui as fait confiance pour le salut de ton âme. Mais ce n'est pas ça l'emploi. Il y a d'autres versets, il y a d'autres passages qui parlent de la foi en tant que les bases communes, les éléments de base auxquels tous les chrétiens devraient croire. OK? Par exemple, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et ça, c'est un élément de base de notre foi. Dieu existe depuis toujours. C'est le Dieu créateur. Dieu existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. On croit à l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix. Toutes les choses qui sont les éléments de base de notre foi. OK? Donc, c'est dans ce sens-là que Paul utilise ici le mot « foi ». pour qu'on arrive tous ensemble à l'unité dans la foi, c'est-à-dire dans l'unité de ce qu'on reconnaît comme étant vrai, comme faisant partie de notre foi commune, de la vérité de Dieu, du dépôt de Christ et des apôtres, les choses, les éléments de base qui font que nous sommes unis finalement. Nous sommes unis par la vérité. Nous sommes unis dans la vérité. Sans la vérité, il n'y a pas d'unité. Pas vrai? OK? Alors, c'est pour ça que il faut faire attention à ce que la vérité soit proclamée, la vérité soit prisée, la vérité soit reconnue et le mensonge aussi. Donc, quand on nous demande de participer à certaines choses avec d'autres religions, d'autres fois, on se dit, attendons un petit peu, regardons c'est quoi la vérité. Est-ce qu'il y a des choses qui sont contraires à la vérité? Parce qu'on s'unit sur la base de la vérité de notre foi, la base de la vérité biblique. Donc, s'il y a une dénomination ou une foi qui croit des choses contraires à ça, on peut dire, bien, désolé, on vous aime, mais on ne peut pas s'unir. On ne peut pas s'unir. L'unité requiert une foi commune. L'unité sans la vérité, ce n'est pas l'unité. C'est vrai? Maintenant, il faut faire attention, il y a un danger, parce que le danger, c'est d'aller dans l'autre extrême et dire, bien, vu qu'il y a une conviction différente par rapport à la venue du Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas me réunir avec lui. Là. Non, ça ce n'est pas les bases de la vérité. Ça, c'est une conviction secondaire. OK? Il ne faut pas diviser le corps de Christ. Quand on parle de l'unité de la foi, on parle des choses que nous reconnaissons comme vraies, comme étant les bases de notre foi. Ça va? Il ne faut pas pousser ça jusqu'aux convictions personnelles sur des points où ce que la parole nous donne une liberté de conscience. OK? Donc, certains vont se permettre de certaines choses. La Bible, le Nouveau Testament ne nous dit pas « faites pas ci, faites pas ça ». Nous ne sommes plus sous la loi. Nous avons une liberté, comme notre frère Angoran a dit cet été. Ça ne veut pas dire que ça nous permet le libertinage. Mais nous avons une liberté de conscience. OK? Et dans ces choses-là, ou de conviction par rapport à des points qui ne sont pas très bien spécifiés ou très bien définis dans la parole de Dieu, c'est correct. On peut être quand même unis, malgré qu'on ait des différences d'opinion. Mais sur la base, non. La base, elle est claire. Elle est simple. Et c'est ça qui contribue à l'unité, et c'est ça qui fait la base de notre unité. Est-ce que tu peux participer à ça? Oui, tu peux participer à ça. Chacun de nous, on a reçu de Christ un don pour participer à ça, c'est-à-dire à l'unité de la foi. Comment? Pas juste en prêchant en avant, mais quand on s'entretient entre nous. On dit une parole du Seigneur. On encourage à considérer ce que la parole de Dieu dit sur quelque chose. On contribue à l'unité de la foi là, quand on fait ça. D'accord? C'est pas juste les prédications. Oui, effectivement, les prédications sont très, très importantes pour donner la bonne direction, pour encadrer, pour distinguer entre le vrai et le faux. Mais chacun de nous, on est appelé à connaître la parole de Dieu. Pas vrai? Amen. Et deuxième but qu'on voit ici, c'est que c'est à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Fait que ça, c'est Ce n'est pas divorcé du premier point, c'est continu. Mais c'est un point un peu quand même qu'on peut distinguer. On peut parler ici de quoi? De connaissance intime, relationnelle, expérientielle du Christ. Donc, ce n'est pas juste lire la Bible, je rentre la Bible dans ma tête et j'y crois. OK? C'est une expérience personnelle avec Christ. Une relation avec le Christ vivant. Est-ce que Christ est ressuscité? Est-ce que Christ est vivant? Amen. Pas d'amen. Avez-vous une relation avec le Christ ressuscité? J'espère. J'espère. Et le but d'utiliser ton don, c'est que ton frère, ta sœur, sa relation avec Christ, quoi? Grandisse. Son expérience du Christ grandisse. Pas juste la connaissance de la vérité. Oui, c'est ça. Et le but, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Hmm? C'est quoi la maturité spirituelle? C'est connaître la Bible par cœur? C'est de ressembler à Jésus-Christ. Ressembler dans ton caractère, hein? Dans tes connaissances aussi, dans tes compétences. C'est-à-dire que tu t'exerces à faire ce que ton Père céleste te demande de faire. Comme Christ. Comme Christ. La maturité spirituelle, c'est de ressembler à Christ. Et quand on utilise nos dons, quand tu utilises ton don dans l'Église, tu contribues à ça. Pas juste pour toi, mais pour tes frères et sœurs. OK? C'est ça les buts de la construction. L'unité de la foi et la ressemblance à Christ. On ne peut pas les divorcer, là, sont contigus. On ne peut pas divorcer la ressemblance à Christ de la connaissance de la vérité. C'est contigu. Mais on distingue quand même. Verset 14, et il y a un genre de parallélisme, hein? Quand on lit les Écritures, quand on lit les Écritures, souvent il y a un parallélisme, l'auteur va dire quelque chose et il va le répéter d'une autre façon plus tard. Et ici on voit le parallélisme au verset 14, il dit, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Donc, ici, il parle d'hommes, de faux docteurs. De faux docteurs qui séduisent les gens par des fausses doctrines. Et Paul dit, quand l'Église fonctionne bien, là, quand le corps fonctionne bien, tu utilises ton don, les leaders utilisent leurs dons dans l'amour et on s'édifie, ça protège contre les faux docteurs. Et il y en a des faux docteurs. Des gens qui veulent pour leur propre gloire, soutirer des gens de toutes sortes de milieux pour se créer un following. Ça nous protège. Paul y donne l'image ici de barques qui sont ballottées sur la mer par tout vent, par toute vague. Et donc, la vérité empêche la dérive. C'est important, la vérité. C'est très important. Ça empêche la dérive. Donc, ça, c'est le parallèle avec unité dans la foi. Nous sommes unis dans ce que nous croyons, dans ce que nous reconnaissons comme étant vrai. Les premiers chrétiens, et même aujourd'hui encore, souvent ils avaient ce qu'on appelle un credo. Et nous avons un credo ici. Et souvent dans les premières églises, ils répétaient le credo. Nous croyons en Dieu le Père, souverain créateur du ciel et de la terre, et à son Fils Jésus-Christ, et etc. Et plusieurs points dans le credo, et tout le monde connaissait le credo. Parce que ça nous unit et ça nous protège. Deuxièmement, il dit ici, nous ne serons plus des enfants, donc la distinction avec l'état d'adulte, un enfant, les enfants ballottés, Au contraire, verset 15. Au contraire, verset 15. En exprimant la vérité dans l'amour, en haut. C'est différent, là. C'est différent. Là, tu peux exprimer l'amour. Non, tu peux exprimer la vérité, mais tu ne ressembles pas du tout à Jésus-Christ. Parce que quand tu exprimes la vérité, tu veux remettre la personne à sa place. Ou tu veux te venger parce que tu as fait mal. Ou tu veux démontrer que tu as raison, que tu ne te feras pas avoir par quelqu'un là. Ce n'est pas de ressembler à Jésus-Christ. Exprimer la vérité avec amour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je cherche ton bien. J'exprime la vérité pour ton bien. Mon désir, mon motif, c'est que tu grandisses, que tu t'approches du Christ. Et si tu ne le connais pas, que tu puisses le connaître comme ton Sauveur et Seigneur. Le motif. Sans ce motif-là, tu peux exprimer la vérité, mais tu ne ressembles pas à Jésus-Christ. Oui, oui. Et tu peux, d'un autre côté, être aimant, mais sans la vérité, est-ce que c'est le vrai amour? Si Richard, il s'en va dans l'auto, puis je sais qu'il y a une falaise au bout, puis je dis, Richard, je t'aime, tu conduis bien, continue. Ça va bien, tu conduis bien. Mais je ne dis pas qu'il y a une falaise au bout, là. C'est-tu le vrai amour? Non, parce que je n'ai pas dit la vérité. Il faut faire attention parce que, comme être humain, on est toujours enclin à tomber dans les extrêmes. Hein? Pas vrai? Alors, certains vont dire, j'ai dit la vérité, fait que c'est l'amour. J'ai dit la vérité, puis dire la vérité, c'est l'amour. OK, ouais. Pourquoi tu es choqué? pourquoi tu es si en colère? D'où vient la colère? D'où vient la frustration? D'où vient l'irritation? La Bible nous dit que c'est pas l'amour, ça. Donc, c'est pas juste le fait d'exprimer la vérité que tu aimes ton frère. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Et de l'autre côté, il y a des chrétiens qui sont tellement aimants, tellement doux, tellement humbles et tout ça, qu'ils n'osent pas dire les vraies choses. Mais ce n'est pas mieux, là. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est d'être comme Christ. Hein? Qu'est-ce que Christ faisait? Il disait la vérité. Mais, toujours, avec l'attitude, il serait prêt à mourir pour toi. Serais-tu prêt à mourir pour ton frère, pour ta sœur? C'est ça, ressembler à Christ. Professant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parlant. OK. Exprimant, verset 15, vous êtes avec moi? Exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Ressembler à Christ, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça que la mission de l'Église, c'est faire des disciples. Pour ceux de l'extérieur, c'est de les amener à la foi en Jésus-Christ. Pour ceux de l'intérieur, c'est de les assembler à la ressemblance de Christ. Mais c'est une continuité, voyez-vous? Puis nous, on cherche ici à être une église en mission et saine. Ça veut dire porter vers l'extérieur, proclamer la vérité de Jésus-Christ, attirer les gens à Christ. Et saine, ça veut dire on progresse dans la maturité vers Jésus-Christ. Amen. c'est de prendre le prochain pas. En fait, notre vision, c'est comme ça, c'est marqué, l'Église de Saint-Félicien existe pour aider les gens à prendre le prochain pas vers Jésus. Fait que si tu es de l'extérieur, le prochain pas, c'est quoi? C'est peut-être de la méfiance vers la confiance, c'est peut-être de l'indifférence vers la curiosité, c'est peut-être vers une recherche active de Jésus-Christ, c'est peut-être finalement de croire. Et après, ben, ça continue. Le prochain pas à Jésus, hein? La relation intime avec Christ, participer à la famille, etc. Donc, voilà. Comment arriver à être fondé dans la foi et à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ? Quelle serait la meilleure façon, si quelqu'un vous pose la question, « Hey, comment je fais pour être fondé dans la foi et ressembler à Jésus-Christ? » OK. Comment on fait?
Moi, j'aurais tendance à dire que je ne compte pas les soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis de Christ.
OK.
Dans un premier temps, je pense qu'il faut avoir des bons modèles qui vivent la foi.
OK. 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 Excellent. Fait qu'on recule parce que je ne suis pas sûr que vous avez fait le lien avec ce qu'on vient de voir. Paul dit. Dieu, Christ, a donné des dons à l'Église, à toi, à moi, pour que tu les utilises, afin que on arrive à grandir dans la vérité et dans la ressemblance à Jésus-Christ dans l'Église. Fait que c'est quoi la réponse ici? C'est quoi la meilleure façon d'arriver à être fondé dans la foi et à ressembler à Jésus-Christ? Hein?
À se rassembler en unité pour parvenir.
C'est dans l'Église. C'est dans l'Église, exactement. 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 C'est dans l'Église. C'est lorsqu'on fait ça. C'est dans l'Église. Pas d'Église, la bâtisse. Ici, ce n'est pas la maison de Dieu. OK? Nous sommes la maison de Dieu. Amen? Nous sommes la famille de Dieu. Ce n'est pas la bâtisse. Ce n'est pas en mettant le pied ici que tu entres dans la maison de Dieu et que tout d'un coup, tu es transformé à la ressemblance de Christ. C'est faux. Nous sommes, Paul dit, un édifice spirituel, des pierres vivantes. Et Dieu est en train, c'est cette Église-là que Dieu est en train de construire, et c'est en participant à cette Église-là que tu vas arriver à être fondé dans la foi et à ressembler à Jésus-Christ. C'est le moyen que Dieu a prévu. Ça veut dire, autrement dit, par l'exercice des dons, tous ensemble, autrement dit, on a l'Église ici, la communauté de l'Église, avec les leaders, les modèles, comme Richard a dit tantôt. Ça prend des modèles. Ça prend les dons. Ça prend l'amour. Ça prend la vérité. Vous avez la communauté de l'Église. Et toi, tu es là. Et tu veux grandir. C'est quoi la meilleure façon pour toi de grandir? Si tu es dans la communauté. Tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est impossible de faire ça tout seul. Voilà. Voilà ce que Paul nous dit. Donc, on a vu que les dons découlent de la victoire de Jésus-Christ. On a vu l'importance des dons de fondation. On a considéré, veux-tu participer à la construction, à l'unité du corps? Et finalement, c'est la force de Christ qui te rend capable de contribuer. Peut-être que tu es comme moi, puis tu dis, « Ouf, c'est trop, là, ça me dépasse. Je peux pas, je sais même pas c'est quoi mon don, je sais pas, j'aime pas ça, être en relation avec plein de monde, je ne sais pas comment je vais faire, j'arrive pas. Bon, heureusement que, ici, Dieu te dit ce matin, mon enfant, c'est moi qui vais te donner la force. C'est moi qui vais te donner la force. Regardez, au verset 16. C'est de lui. Qui ça? Le chef Christ. Hein? N'oubliez pas, là. C'est pas moi le chef de l'Église ici. Si tu fais ton service pour m'impressionner ou pour me faire plaisir, tu es à côté de la traque, comme on dit en québécois. Tu es sorti du sentier. C'est Christ. C'est pas moi. C'est Christ qui est le chef de son Église et nous sommes des sous-bergers. Bon, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Wow! Dans l'autre version sommaire, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune des parties. Il faut regarder à Christ. Il faut se tourner vers Christ. Comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui ignorent totalement leurs dons. Bon, mais c'est quelque chose de précieux que Jésus a payé pour te donner à toi, pour participer. C'est un privilège. OK? Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, demande. Demande au Seigneur. C'est quoi mon don, Seigneur? De quelle façon? Souvent dans le passé, on a parlé de ministère. OK? C'est quoi ton ministère? Mais le ministère, là, c'est pas le don. Il faut faire attention, OK? Ah, je me sens pas appelé au ministère de l'école du dimanche, mettons. OK? Mais le ministère, c'est pas le don. Le ministère, c'est l'endroit où tu exerces ton don. C'est le cadre. C'est le cadre à l'intérieur duquel tu exerces ton don. Bon, prenons le don de l'enseignement. OK? Le don, c'est l'enseignement. OK? Bon, quelqu'un peut avoir un don d'enseignement pour enseigner en avant. Parfait. Ça, c'est le ministère de l'enseignement public. Mais le don, c'est l'enseignement. Mais quelqu'un peut avoir un don d'enseignement et exercer le ministère envers les enfants. Ça, c'est le ministère de l'école du dimanche. Souvent, dans le passé, on a trop pensé au ministère avant de penser au don. Donc, la première chose, c'est demander au Seigneur, c'est quoi le don que tu m'as donné? Et peut-être que tu n'auras pas la réponse tout de suite. Dieu aime ça quand on persévère. Et qu'est-ce que ça révèle quand tu persévères? Deux choses, que tu veux vraiment et que tu crois vraiment. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que tu veux vraiment, Dieu veut voir ton désir. Si tu demandes une fois à Dieu, c'est quoi mon don? Et 3 ans plus tard, je te demande, c'est quoi ton nom? Je ne sais pas. Tu priais là-dessus? Oui, une fois il y a 3 ans. OK. Est-ce que tu veux vraiment savoir ton don? Et deuxièmement, la parole de Dieu, si ceux-là qui persévèrent dans la prière, c'est parce qu'ils croient. Ils croient que Dieu va répondre. OK? Donc, mais là, on parle de la force qui vient du Christ pour faire pour exercer son don. Je vais terminer avec ça ici. Il y a beaucoup d'obstacles réels à participer à construire la communauté de l'Église. Hein? Quels sont les obstacles selon vous? OK, je peux manquer d'argent, oui.
La disponibilité.
Pardon? Notre entourage, OK. Quel autre obstacle il peut y avoir?
Manque de foi.
Oui, c'est ça. C'est vrai. Bien, regardez, vous avez tous raison, puis il y en a probablement beaucoup, mais quelqu'un peut dire, je n'ai pas de capacité, moi. Hein? Est-ce que ça peut être vrai? Oui, ça peut être vrai. Je manque d'énergie, je manque de force. Est-ce que c'est un obstacle réel? Oui. Oui, c'est un obstacle réel. C'est un obstacle réel. Ensuite, manque de moyens de transport. Ensuite, manque de temps. Quelqu'un dit disponibilité. Manque de connaissances, ne connaît pas son don. Manque de confiance dans ses moyens. Oui, c'est ça. Bon, c'est tous des obstacles qu'on peut dire, c'est vrai, c'est réel, ça peut tout être vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, OK. Alors, souvent, on s'arrête à l'obstacle. J'ai dit, ben moi... Les autres, c'est correct, mais moi, garde, parce que tatati tatata, je ne peux pas. Et là, on arrête devant l'obstacle. Mais Dieu est où, là? Là, on regarde à quoi? On regarde à l'obstacle. OK? On regarde à l'obstacle. Mais Dieu est où? Donc, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne veut pas enlever la place à quelqu'un. On ne veut pas déranger. On ne veut pas s'attirer l'attention. On ne veut pas ci, on ne veut pas ça. C'est toutes des choses qui sont réelles dans nos cœurs ou dans la réalité de notre vie. Et comme quelqu'un a dit, le manque de volonté, d'engagement. Alors, on va s'arrêter là ce matin, mais juste pour vous dire, arrêtons-nous pas devant l'obstacle. Parlons au Dieu qui déplace ces montagnes. Si ton désir, c'est vraiment de participer à l'œuvre de Dieu, à la construction du corps de Christ, ben, pourquoi t'arrêter devant un obstacle? Est-ce que Dieu est au courant de ton obstacle? Tu peux peut-être commencer par dire ça à Dieu. Dieu, est-ce que tu sais qu'est-ce que je vis? Est-ce que tu es au courant? Ben oui, Brian, pourquoi il demandait ça? Non, non, demande-lui quand même. Pourquoi? Parce que moi, je peux te dire la réponse. Toi, tu peux te dire la réponse, mais je veux que lui te dise la réponse. Je veux que lui te dise la réponse. Seigneur, es-tu au courant de mon obstacle? Es-tu au courant de comment je me vois, de comment je me sens? Es-tu au courant, Seigneur? Commence là, en toute honnêteté. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Seigneur? Comment tu veux ôter cet obstacle ou me rendre capable de servir malgré l'obstacle? Oui, Chantal, il y avait ta main?
Je me disais que l'obstacle, l'épreuve, c'est notre école de formation à nous tous pour parvenir encore là à aider les personnes que Dieu peut
conçoit. Wow! Oui, amen.
Pour qu'on apprenne en quelque part aussi, puis ça fait mal, des fois, de connaître la vérité. Et c'est dit plusieurs fois dans la parole que sans Dieu, sans lui, on ne peut rien faire.
Amen. Amen, Chantal. Bravo. Excellent. Excellent point. Je vais le répéter, c'est que l'obstacle que Dieu permet dans ta vie, c'est peut-être justement pour t'amener à apprendre, à grandir dans la ressemblance de Christ, à grandir dans la foi en Jésus-Christ et à ne pas te laisser abattre par l'obstacle. Amen. Excellent point. Grande sagesse. Prions. Oui, c'est le repas du Seigneur, c'est vrai. Alors, je vais prier pour la coupe et le pain, puis je demanderai à ceux qui veulent le distribuer de venir pour donner le pain et la coupe. Et on vous rappelle que c'est pour ceux qui ont reconnu publiquement Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur dans le baptême du croyant. Puis si ce n'est pas votre cas, bien, on souhaite que ça devienne votre cas un jour. on vous invite à poursuivre le cheminement vers Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps ce matin, sous ton regard bienveillant, sous ta bonne main, Seigneur, par la direction de ton esprit et la lumière de ta parole. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur, et on veut recevoir ta parole, la méditer et lui obéir par ta force, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, bon berger, d'avoir été jusqu'à la croix pour moi. Merci d'avoir payé le prix ultime pour me libérer de la captivité à Satan et à son règne, de l'esclavage au péché et de la condamnation certaine devant un Dieu trois fois saint. Merci, Seigneur, d'avoir donné ton corps et ton sang pour chacun de nous et d'être ressuscité, d'être un sauveur vivant aujourd'hui. Gloire à toi, au ressuscité. Nous prenons ce pain, cette coupe comme de ta main, Seigneur, avec gratitude, adoration, reconnaissance. Bénis ton Église, Seigneur, ici à Saint-Félicien. Toi, tu es le chef de cette Église. Agis puissamment en nous, pour ta gloire. Amen. On a dépassé le temps. Je suis désolé.